Merci d'être parti. Merci à Jean-Louis pour la première partie du culte, notamment le fait de venir avoir un esprit sur l'épisode dont j'ai pris en place de mise en rapport avec l'épisode de l'intronisation de Jésus, hein, et aussi de l'autre côté, en parlant de la naissance de Christ, avec l'arrivée des mages qui sont venus, voilà, des présents à Jésus, montrant exactement que voilà, notre Seigneur est en même temps prêtre, prophète et roi. Voilà. Ce que je voulais ajouter, justement, on a lu quelques versets de cet épisode d'intronisation de Jésus à Jérusalem. Dans ce passage, c'est le seul. D'ailleurs, on peut lire dans les livres, au verset 31, mémoire, c'est le seul endroit où Jésus a dit publiquement, notamment s'adressant à Philippe, qu'il était le Seigneur. En parlant de l'agneau, il a bien dit, si quelqu'un vous demande pourquoi, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Prêtre, prophète, roi, et ajouté à cela, il est Seigneur Jésus-Christ. Enfin, tout a été dit en tout cas dans cet épisode. Je vous invite à la prière et une semaine avant Pâques, nous allons continuer à réfléchir sur ce que nous unique dans l'histoire de l'humanité. Le don d'amour. Ah. Notre Dieu, notre Père. Nous voici donc rassemblés dans ta maison où ta gloire habite. Pour nous souvenir de la mort de Jésus-Christ à la croix et de cet épisode du voile qui s'était déchiré, afin que nous puissions avoir accès. Oui, Seigneur, ce matin, nous pouvons donc librement nous approcher de toi. Nous approcher de toi pour te célébrer, nous approcher de toi pour t'adorer, toi qui es le Dieu vivant et vrai, le Dieu unique, le créateur de toutes choses, l'auteur d'un si grand salut. Oui, Seigneur, merci pour tous ces principes que je vous donner dans la partie. Et merci pour la parole, Seigneur, que tu désires nous donner à présent. Que nos cœurs, Seigneur, se tournent vraiment vers toi. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole. Seigneur, qui puis-je pour parler de toi? Je m'abandonne tout simplement entre tes mains, afin que tu puisses m'utiliser comme un instrument, un canal par lequel tu désires bénir ton peuple. Jean-Baptiste pourrait dire au sujet de Jésus qu'il croisse et que je diminue. Oui, Seigneur, moi, je désire diminuer afin que toi seul sois visible maintenant. Parle à ton peuple, instruis ton peuple, bénis ton peuple. Encourage ton peuple, fortifie ton peuple, guéris ton peuple, envoie ta parole. Comme le dit Soussan, mais il envoya sa parole et il est guéri. Oui, Seigneur, merci. Que toute la gloire te soit rendue dans le beau et précieux nom de Dieu. Amen. Alors, pour le message de ce matin, je vous propose, pardon, quelques portions de textes dans les Écritures. D'abord, dans le livre de Tite, chapitre 1, versets 1 à 2, versets pour l'Épître de Paul à Tite. Et ensuite, nous lirons deux autres versets. Dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 1, le verset aussi qui ouvre, deuxième fois la Timothée, et nous verrons enfin le verset 9, toujours dans ce chapitre 1, de 2 Timothée. Donc d'abord, Tite, chapitre 1, verset 1 à 2. Lisons au nom du Seigneur. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus, de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Lesquels, entre connaissance et vérité, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès un temps par le Dieu qui ne ment point. De Timothée, chapitre 1, c'est 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Le verset 9, de Timothée 1, verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Alors, j'attire juste votre attention pour ce qui est des Bibles ouvertes, en tout cas. Au verset 2 du titre, il est dit sur l'espérance de la vie éternelle, mais promise dès les plus anciens temps. C'est dans 2 Timothée 1, verset 1, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, et au verset 9, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et les plus anciens temps et avant les temps éternels. Je veux parler ce matin de cet ordre j'appelle l'ordre de mission de la croix. L'ordre de mission de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous présente un plan de salut. Un plan de salut, en tout cas, qui est conçu bien avant la création du monde. Bien avant la création du monde. De sorte que, d'ailleurs, les Écritures nous parlent de Jésus comme un agneau immolé, sacrifié, dès avant la fondation du monde. Donc, Dieu est concepteur. Dieu a conçu bien avant la fondation du monde un plan de salut pour l'humanité. Le Fils, quant à lui, est venu justement dans ce monde pour accomplir ce plan conçu par le Père. Il est donc le Fils, l'accomplisseur, en quelque sorte, l'exécuteur. Le Père, on a dit, est le concepteur. Le Fils vient pour accomplir, pour exécuter ce plan. Et le Saint-Esprit, de son côté, dans cette économie du salut, dans cette dispensation de la grâce, le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pardon? Pour appliquer. Le Saint-Esprit est donc l'applicateur. C'est lui qui est chargé d'appliquer dans nos vies. Le Saint-Esprit, il est chargé d'appliquer dans nos cœurs les bienfaits, les bénédictions issues de la croix. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas bénéficier des bénédictions qui découlent de l'œuvre. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Son rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ce que Christ a accompli à la croix pour mettre cela en place dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage, ce que l'apôtre Paul dénote dans l'action même du ministère du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, à quel moment le Fils de Dieu a-t-il commencé à s'avancer vers la croix sur laquelle il allait finalement être crucifié? À quel moment le Fils a su qu'il subirait cette mort horrible et honteuse? Nous trouvons le texte de la croix et même le psaume 22 dont j'en ai lu quelques extraits. Est-ce que c'était dans les ténèbres du jardin de Gethsémané, en tout cas quand sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang? Oui, et même avant cela, est-ce que c'était pendant son entrée triomphale à Jérusalem, sous les acclamations, les ovations de la foule, une foule excitée? Oui. Et avant cela, justement, est-ce que c'était lors de la montagne de la Transfiguration, quand son visage resplendissait de la gloire céleste, alors qu'il s'entretenait avec Élie et Moïse au sujet justement de l'œuvre de la croix? Oui, et avant cela, est-ce que c'était lorsque Jean-Baptiste l'a annoncé publiquement, et avec force, je veux dire, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte. Il n'a pas dit, Jean-Baptiste, que c'est l'agneau de Dieu qui couvre, comme les sangs des taureaux et les boucs. Non, il dit l'agneau de Dieu qui ôte, c'est-à-dire qui enlève le péché du monde. Oui, et avant cela, le témoignage de l'Écriture est clair, le Fils de Dieu a commencé à s'approcher vers la croix avant même. Avant même la création du monde, avant même la création du monde, il s'approchait déjà de la croix. Ce voyage est évidemment poursuivi tout au long des siècles de l'Ancien Testament, avec des illustrations et des prophéties pendant toute cette période. Puis, le texte dit, lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les plans ont été accomplis, le Fils de Dieu est entré sur la scène de l'histoire de l'humanité sous la forme d'un bébé. Il venait évidemment dans le but d'aller mourir sur cette croix de laquelle il s'approchait depuis toute l'éternité. Il a commencé son ministère tout en ayant cette croix pleinement devant les yeux. Et il s'en est jamais, jamais, jamais détourné jusqu'au moment où il a pu enfin s'écrier avec des accents de victoire. Tout est accompli. Est accompli. Ainsi, frères et sœurs, voyez, la croix n'est pas une sorte d'arrière-plan de Dieu, un plan de secours, en quelque sorte, auquel l'Éternel aurait pu recourir après l'échec de son plan initial, de son plan principal. Non, de toute éternité, la croix a toujours été le plan principal de Dieu et il n'y en avait jamais eu de plan de secours. Du coup, Dieu n'en avait pas besoin car, il dit la parole de Dieu, ses desseins n'échouent jamais. Dire ou penser que la croix était une solution de dernière minute, que des circonstances imprévues s'étaient en quelque sorte imposées à Dieu, car ça, cela revient à dire que Dieu n'est pas souverain. Et s'il n'est pas souverain, il n'est pas Dieu. Bon. Les premières paroles de Paul à Tite contiennent une phrase qui devrait suffire à nous couper le souffle. Par ces mots, L'apôtre se réjouit, il se réjouit dans l'oubli de la vie éternelle. Et dans l'élan de sa joie, il mentionne le fait que Dieu a promis de faire ce don avant tout. Arrêtons-nous un moment avant tous les siècles. Avant tous les siècles signifie avant même qu'il existe des êtres humains. Nous avons donc ici une chose étonnante. Dieu promet de donner la vie éternelle à des hommes et à des femmes. Mais alors qu'il n'y avait encore personne pour la recevoir. Personne. Mais Dieu promet, Dieu fait la promesse. Le mystère s'éclaire quand nous lisons ce deuxième passage dans cette lettre de Paul à Timothée. Mais d'abord aussi la question de la vie éternelle en parlant de la promesse de la vie en Jésus-Christ. Et là, on dit, il dit que la grâce de Dieu nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps. On parle toujours de la grâce, mais cette grâce a été rendue disponible déjà avant les temps éternels ou avant la fondation du monde. Nous voyons donc comme cette expression similaire, avant tous les siècles d'un côté et avant les temps éternels de l'autre. Frères et sœurs, cela nous présente donc la situation suivante. Dieu a fait la promesse de la vie éternelle à des hommes avant même qu'il y ait le moindre homme pour la recevoir. Mais la seconde personne de la Trinité, donc le Fils éternel de Dieu, était bien présent quand Dieu faisait la promesse de la vie éternelle à des gens qui n'existaient pas encore. Selon cette promesse, selon l'apôtre Paul, pardon, cette promesse s'adressait d'abord au Fils. D'abord au Fils. Donc, notre salut était d'abord une promesse du Père faite au Fils, notre salut. Le Père promet de donner au Fils un peuple. Le Père promet de donner au Fils un peuple qui partagerait la gloire éternelle avec lui. Nous, Éphésiens, chapitre 1, verset 4, dit quoi? L'apôtre Paul dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 34, d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui parle, le Seigneur Jésus déclare à ses disciples, Père royaume a été préparé pour eux, mais avant la fondation du monde, un royaume. Alors la question, c'est pourquoi Dieu le Père ferait-il une telle chose? Pourquoi Dieu le Père donnerait-il un peuple à son fils pour que celui-ci en prenne possession? Pourquoi? Alors, la prière de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 17, la prière sacerdotale, nous donne la réponse. Nous y trouvons, pardon, le Seigneur en train de parler au Père, précisément au sujet de ce don, au sujet du peuple que le Père lui a donné dans l'éternité. Il l'explique ainsi, parce que tu m'as aimé avant la création. 27, verset 24, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul parle de lui-même et de ses lecteurs comme appartenant à ce que le Père a donné au Fils. Il dit que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien-aimé, Colossiens chapitre 1, verset 13. Voilà, frères et sœurs, le Père donne au Fils un peuple en raison de l'amour qu'il avait pour son Fils. Le Père donne au Fils un peuple en raison de l'amour qu'il avait pour son Fils. Mais comment ce don du Père exprimait-il justement son amour pour le fils? Alors, il y a au moins deux réponses à cette question. Entre autres, premièrement, en promettant un peuple à son fils, en promettant un peuple à son fils, le père s'engageait. Le père s'engageait à s'assurer que ce peuple apporterait honneur et gloire au nom du Fils de Dieu et durant toutes les périodes. Vous voyez? Et Jésus a pu dire à la fin de sa réponse que Dieu cherche quoi? Il est à la recherche des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et là, vous avez aussi des versets comme Éphésiens chapitre 1, verset 12, qui dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés en Jésus afin que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Et d'abord, nous qui d'avance avons espéré en Dieu. Nous qui d'avance. C'est-à-dire que, mon frère, ma soeur, là où tu es là, ce n'est pas seulement de ton existence que tu dois accepter Christ. Si tu es là, c'est que tu es là, bien au monde. Tu avais déjà accepté Christ. Dans la volonté de Dieu. Il dit, nous qui avançons avant d'espérer en Christ. Et on peut lire aussi dans Ésaïe 5, verset 8, 14, qui est beaucoup plus explicite sur la louange que le peuple de Dieu doit rendre au Christ. Donc, Dieu s'engage. Dieu s'engage en promettant un peuple à son Fils. Il s'engage à s'assurer que ce peuple apporterait honneur et gloire au Fils de Dieu. Deuxièmement, en promettant un peuple à son Fils, le Père s'engageait aussi à rendre ce peuple semblable à son Fils. 1 Pierre, chapitre 1 Jean, chapitre 3, au verset 2, l'apôtre Jean nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et parce que nous le verrons tel qu'il est. On dit souvent que l'imitation est le meilleur compliment. Dans ce cas, nous pourrions dire que l'amour du Père pour le Fils trouvait son expression la plus exaltée dans le fait qu'il rendrait ce peuple semblable à lui. Deux choses terminées. Le Père nous a sauvés pour que nous puissions glorifier le Fils et le Père nous a sauvés pour que nous puissions ressembler au Fils. On va résumer ce que Dieu nous a apporté. Plus qu'en donnant un peuple au Fils, le Père a aussi écrit nos noms, dit la Bible, dans un livre de vie. Apocalypse chapitre 13, verset 8, affirme qu'il y a un livre de vie où des noms sont écrits, mais dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas surprenant du point de vue de Dieu de savoir que moi je m'appelle Yvan. Mais il le savait, il avait déjà inscrit mon nom bien avant la fin. Le Père promet au Fils qu'il va attirer vers lui chaque membre de ce peuple. Nous pouvons représenter cela de la façon suivante, frères et sœurs, dans le cœur de l'éternité, et les choses se passent entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, au sein de ce qu'on appelle la Trinité, la première personne, donc le Père, est allé vers la seconde personne, le Fils. Et il lui a dit, voilà, pour exprimer mon amour pour toi, pour exprimer mon amour pour toi, je te fais le don d'un peuple. J'en attirerai les membres à toi. Ils seront appelés plus tard les chrétiens. Ils te serviront également et je les rendrai semblables à toi, dans la mesure où il est possible, évidemment, à l'humanité de ressembler à la divinité. Ils vont te ressembler et vont aussi refléter. Voilà en réalité ce que le Père promet au Fils dans l'alliance intervenue entre eux au sein de la Trinité. Alors maintenant, quelle a été la réaction du Fils? Comment le Fils s'est-il comporté? Évidemment, il a accepté. Il a accepté ce don, d'empressement. Mais le Fils devait faire quelque chose pour recevoir ce don d'amour de la part du Père, à savoir, donc, accepter cette humanité des ravages causés par le péché. Oui, avant même qu'il crée l'homme et le place dans le jardin d'Éden, Dieu savait que l'homme allait désobéir à ses ordres. Et ce faisant, il attirerait sur lui et sur ses descendants la puissance même du péché. Les êtres humains que le Père avait donnés au Fils étaient donc ceux que le Fils allait racheter. Alors, qu'est-ce qui était nécessaire pour faire cela? Il fallait payer. Il fallait payer la peine imposée par Dieu sur le péché. Et cette peine consistait en la mort. À la mort, non pas seulement la mort physique, la séparation du corps et de l'âme, mais aussi plutôt spirituelle, la séparation de l'âme d'avec Dieu. Une séparation éternelle sans fin. Il fallait payer cette peine. Dieu l'avait prononcée comme étant le juste châtiment encouru par le péché. S'il n'avait pas exigé que le châtiment prenne place, il aurait renié sa propre justice et aurait compromis justement l'intégrité de son caractère de saint. Mais Dieu est saint. Il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Dieu est saint. Il ne fait jamais comme si le péché n'a jamais été commis. Non. Pour racheter l'humanité qui lui était donnée, le Fils devait donc prendre sur lui et porter le châtiment que le péché de ces hommes encourait. Il lui fallait absorber leur mort dans toutes ces dimensions. Autrement dit, le plan divin de salut exigeait que le Fils se porte garant pour ceux que le Père lui avait donnés, se porte garant. Vous voyez, qu'est-ce qu'un garant? Garant, et bien sûr, quelqu'un qui accepte de se tenir à la place d'un autre, d'en être la garantie ou la caution. Cette personne accepte donc de s'acquitter pleinement de toutes les obligations de celui par qui elle se tient garant, de sorte qu'aucune obligation ne s'applique sur lui. Or, pour quelle raison ceux qui faisaient partie du don de l'amour du Père ou le Fils avaient-ils besoin d'un garant? Pour quelle raison? Quelles étaient leurs obligations devant Dieu? Et pourquoi ne pouvaient-ils pas eux-mêmes s'en acquitter? Pourquoi? En tant que créatures de Dieu, ils avaient la capacité d'obéir parfaitement à la loi de Dieu, mais cela leur était impossible. C'est possible à l'homme d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Adam, leur premier représentant, péchant contre Dieu, là, allait plonger toute la race humaine dans une calamité et une ruine terrible. Donc, la seule issue à cette ruine existait quelqu'un d'autre accepte de se porter garant pour eux. Les hommes ne pouvaient pas le faire pour eux-mêmes. D'ailleurs, même s'ils avaient parfaitement pu obéir à la loi de Dieu dès leur naissance, contrairement à ce qu'Adam, premier représentant, avait fait, ils se trouveraient déjà sous la sentence de mort. Donc, le plan de rédemption du Père, frères et sœurs, demandait à son Fils de servir de garant pour ceux qui formaient le don de son amour. Cela les ramènerait dans la faveur avec Dieu en la condition pour que ce dont ils étaient incapables de s'en acquitter de leur responsabilité. Il s'agissait là, frères et sœurs, de l'élément essentiel de l'acceptation de ce don par le Fils. Si tu acceptes le don de ce don, il faut que tu ailles mourir à la place de ce don. Un élément essentiel de l'acceptation de ce don. La bonne nouvelle pour les hommes pécheurs consiste donc en ce que le Fils acceptait avec joie et en très souvent de devenir notre garant, le garant de ce don. Ceci nous amène, frères et sœurs, au cœur même de ce plan de rédemption conçu dès avant la fondation du monde par la Trinité. Il est possible de résumer ce plan par deux mots. Encore une fois, n'ayons pas peur des mots. Les mots sont faits pour dire les choses, pas les utiliser. Une propitiation par le moyen d'une substitution. Le mot propitiation nous introduit en présence d'une réalité que beaucoup de nos contemporains n'aiment pas entendre, savoir l'air. Tu es en colère, c'est un Dieu d'amour. Comment peux-tu être en colère? Et le mot propitiation nous introduit en plein dans cette réalité de la colère de Dieu. Il nous faut réaliser que Dieu ne prend pas notre péché à la légère. N'en sourit pas avec, je dirais, une affable bonhomie. Non, il ne l'écarte même pas avec un revers de la main comme une simple mauvaise conduite d'un enfant quelconque. Non, Dieu est en colère à cause de chez l'homme. C'est une réalité terrifiante, d'ailleurs, décrite par le roi David au psaume 7, versets 12 à 14. David décrit cette réalité en des termes très sombres, psaume 7, 12 à 14. Dieu est un juste Dieu. Dieu s'irrite en tout temps. Si l'enfant ne se convertit pas, que fait Dieu? Mais comme il aiguise son père, il bombe son arc et il dit. Il dirige pour lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches de l'homme. Et le méchant comme cette nous attaquer. Nous devons apprécier ce mot propitiation que si nous comprenons ce qu'est la colère de Dieu. Le mot propitiation fait allusion à l'apaisement d'une colère. Le fait de rendre propice, l'apaisement d'une colère, le fait de rendre favorable. Alors, cette pensée est renversante dans la mesure où il est possible d'apaiser la colère de Dieu, de la détourner de sorte qu'elle ne puisse plus s'abattre sur les hommes pécheurs et les coupables. Il s'agit effectivement d'une merveilleuse nouvelle. Mais comment cela se produit-il précisément? La Bible insiste sur le fait que la seule manière dont on peut apaiser la colère de Dieu contre le pécheur consiste à faire retomber sur quelqu'un d'autre. Il va retomber sur quelqu'un d'autre cette colère. Ce quelqu'un d'autre, là, on peut l'appeler un substitut, un remplaçant. Et c'est ce qui nous amène justement à la substitution. La croix de Christ s'est substituée à nous. Le fait que Dieu est un Dieu saint exigeait que le péché soit châtié. Il n'existe en tout cas aucun moyen de contourner cette exigence. Aucun moyen. Dieu ne peut pas tout simplement mettre de côté sa colère. Il ne peut pas simplement l'écarter car la justice à lui exige que le péché soit puni. Il faut apaiser sa juste colère. Mais cet apaisement n'est possible que par l'une des manières suivantes. Soit le pécheur lui-même peut subir la colère de Dieu contre le péché. On va parler du méchant qui ne veut pas se convertir. Soit le pécheur lui-même va subir la colère de Dieu pour son péché, ou soit quelqu'un d'autre peut intervenir et se placer entre le pécheur et Dieu. Enfin, de recevoir à la place du professeur les coups, la colère même de Dieu. Et la justice de Dieu exige que sa sentence contre le péché ne s'exerce qu'une semaine. Une semaine. Si donc quelqu'un d'autre se met à la place du pécheur, quelqu'un d'autre entre en scène et prend sur lui le coup de cette colère, la justice de Dieu reçoit en tout cas une entière et pleine satisfaction. Afin de recevoir le don que le Père lui faisait dans son amour, le Fils avait accepté de devenir celui qui va remplacer ceux qui composeraient ce peuple, ce don. Il avait accepté de devenir celui qui va se mettre à la place des pécheurs. Mais comment le Fils de Dieu allait-il accomplir cette mission d'absorber en lui-même les dimensions du sacrement imposé par ce peuple qui nous donnait son Père, mais qu'il d'abord il fallait venir dans le monde, la naissance. Il fallait venir dans ce monde, parce que ce monde, c'est quoi? Ce monde, c'est le domaine où l'homme allait désobéir. Dieu savait qu'il en un jour son Fils dans ce monde. Puis il faudrait devenir homme. Il lui était impossible de représenter son peuple et expier leurs péchés à moins d'être lui-même aussi un homme. Donc la condamnation exigeait qu'un homme meure et le Fils de Dieu ne pouvait endosser cette peine que homme. Et c'est à ce point que la croix est intervenue. Dieu décide que le Fils doit subir ce genre de mort à la place du peuple que le Père lui donnait. Donc, sur cette croix, le Fils de Dieu ne se contenterait pas de connaître la mort physique, mais il endurerait aussi une mort spirituelle, une mort éternelle. La rédemption de ceux que le Père donnait au Fils consistait en ceci, sur la croix, Dieu a traité Jésus comme s'il avait commis tous les péchés de chaque individu qui allait parvenir par foi. Alors qu'en fait, Jésus était sans péché, parfaitement innocent. Par cette mort, le Fils allait donner satisfaction à toutes les exigences de la justice divine à l'égard de ceux que le Père lui donnait. Ces hommes seraient donc libérés du péché et deviendraient ainsi un peuple spécial. Nous sommes un peuple spécial appartenant au Fils de Dieu. La preuve, c'est que le voile du temple ne s'est pas déchiré, ne se serait pas, pardon, le voile du temple ne se serait pas déchiré si le Père n'avait pas obtenu satisfaction pleine et entière par la mort expiatoire de son Fils. Donc, nous pouvons en vivre dans la présence de Dieu, le voile étant déchiré. Dieu est sacrifié, il travaille accompli par son Fils. Cette œuvre de rédemption était ce que le Père exigeait du Fils, afin que ce dernier reçoive le don de son amour. De son côté, sans aucune incertitude, on a dit, le Fils avait accepté avec joie et empressement ce don de ce peuple, ainsi que de payer le prix de la rédemption. Il s'engageait ici, le Fils, à ne perdre aucun des élus au dernier jour. Lui-même, aucun de cela ne va donner. Cependant, il est aussi important de réaliser qu'une troisième personne était présente. On l'a dit à ce conseil divin, il s'agit bien du Saint-Esprit de Dieu. Après que le Père ait donné un peuple au Fils et que celui-ci accepte ce don et s'engage à venir accorder la rédemption à ce peuple, le Saint-Esprit aussi avait accepté de venir dans ce monde après l'ascension du Fils afin d'appliquer, on a dit, les bienfaits, les bénédictions de sa rédemption dans le cœur des membres de ce peuple et de Saint-Esprit. Depuis le moment où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont convenus de cette alliance, le Fils Elle a commencé à se tourner en direction de la croix et a commencé à s'en approcher. C'est la raison pour laquelle la Bible parle de Jésus en étant l'agneau de Dieu prédestiné et immolé. Trinitaire, avant de créer le monde, a tenu un conseil spécial pour le sujet concernant notre salut. Notre salut. Notre salut. Ce conseil, il a décidé que la croix serait le moyen, le seul moyen d'accomplir cette rédemption. Il s'appuie des trois personnes de la Trinité par un amour immense de l'homme pécheur que je suis. Les trois personnes de la Trinité ont compris son rôle. Chacune des trois, pardon, a compris son rôle dans ce plan avec une parfaite fidélité. Et tout cela pour des hommes pécheurs et coupables. Bien-aimés dans le Seigneur, je reprends ces paroles pour terminer. Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 12, l'apôtre Paul dit en parlant de Christ, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés à avoir la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange, à la gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le salut de l'individu n'est pas le fait d'un hasard, d'un simple hasard. C'est Dieu qui a tout programmé depuis les temps anciens. Il blanche à la race de son Et pas nous manger pour sauver le jour alors qu'il n'y a encore personne sur terre. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce que le Christ a accompli à la croix est tout simplement formidable. Il mérite notre louange, il mérite notre adoration sans fin. Il mérite qu'on puisse nous ressembler à quelqu'un d'autre. Notre travail de chaque jour, d'adorer Dieu. On doit tout faire en sorte que nous puissions toujours le reprendre dans notre travail. Chaque jour, nous apporte un peu dans la ressentie. Nous, c'est ce qu'il nous a dit la Jean, que Dieu nous donne force de finir ce chemin qui va tracer. Et Dieu bénisse ça. Notre Dieu, notre Père, personne d'autre en part. J'allais dire aucune divinité, mais ce sont des grands dieux. Mais personne d'autre n'a pu concevoir un plan de salut aussi cohérent et aussi mystérieux qui nous étonne. Nos cœurs se lèvent simplement pour te dire merci. Nos cœurs se lèvent ce matin encore pour te rendre. Merci Jésus pour ta mort à la croix. Merci pour ce sacrifice. Tu as donné ta vie pour nous donner la vie. Et une vie sans fin. Et si c'est dans notre prière, accorde-nous chaque jour la grâce de t'adorer, non pas seulement lorsque nous venons chanter, mais que toute notre vie soit une adoration sans fin pour toi. Et que chaque jour qui passe nous amène à te ressembler encore une fois. Seigneur, seul, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous dit ta parole, nous serons capables. Bénis chacun d'entre nous et bénis ta parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.
Oui.
Alors, je vous invite à comprendre la session.